santé avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission enregistrée à Dakar, où se trouve donc l'équipe de Priorité Santé cette semaine. Alors au lendemain d'un premier rendez-vous ancré dans l'actualité pour parler des épidémies et des virus émergents, aujourd'hui nous allons regarder vers le futur et partir à la rencontre de celles et de ceux qui nous soigneront demain. Aujourd'hui étudiants, demain soignants, à quand remontent leurs décisions et comment cette orientation a-t-elle été perçue par leur entourage? Quels ont été les soutiens, mais aussi les obstacles face à leur choix? La réalité de l'hôpital ressemble-t-elle à l'image qu'ils s'étaient fait avant de pratiquer? Quelles sont les bonnes surprises, mais aussi les désillusions depuis le début de leurs études? Alors nous vous proposons une rencontre à trois voix. Elle s'appelle Daro, Christine, Maïmouna, la première a 24 ans, les deux autres 26. Aujourd'hui inscrite à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, ici à Dakar, elles vous soigneront demain. La vocation, les soins, les rencontres, les stages à l'hôpital et bien sûr les profs, comprendre les motivations de cette future génération de médecins. Et c'est donc un échange avec ces trois futurs praticiens que nous vous proposons aujourd'hui, trois rencontres avec Daro Sen, étudiante en cinquième année de médecine, dans le jargon de l'université on dit M2, Christine Sornatchandoum, elle achève sa septième année, et Maïmouna Sow en huitième année, elle a déjà commencé la rédaction de sa thèse de doctorat.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Abdoulaye Sam, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous accueillir ici, dans l'enceinte de cette faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, faculté dont vous êtes le doyen, par ailleurs professeur de physiologie humaine, une institution universitaire, un vieil héritage, un plus que centenaire, et trois rencontres avec, on va dire, l'avenir de la médecine ici au Sénégal. Professeur Abdoulaye Sam, combien d'étudiants sont inscrits dans votre faculté ?
Alors, on a plusieurs types d'étudiants. Nous avons donc les étudiants dans la formation initiale en médecine, pharmacie et odontostomatologie. Nous avons en moyenne 6000 étudiants globalement. Et puis dans le domaine donc de la formation continue, c'est les spécialisations, nous avons environ 2100 vers 2200 étudiants.
Est-ce que vous avez des indications en termes de répartition filles-garçons? On sait qu'en France, aujourd'hui, par exemple, la profession médicale est de plus en plus féminine. Est-ce que c'est vrai ici aussi au Sénégal?
Alors jusqu'à présent, quand même, au Sénégal, on a une majorité de garçons par rapport donc aux filles. Nous avons à peu près des proportions de 55% contre 45% pour les filles. Et nous, ce que nous avons remarqué, effectivement, que c'est dans le primaire et dans le secondaire, les filles ont tendance à être un peu plus nombreuses que les garçons. Mais par contre, quand on vient dans l'enseignement supérieur, c'est en ce moment que ça s'inverse un peu. On a un peu plus de garçons que de filles, donc au niveau de l'enseignement supérieur.
Toujours au sujet du profil de cette future génération de médecins, tous les étudiants sont boursiers, mais on sait en même temps qu'ils n'ont pas tous les mêmes ressources à la base. Est-ce que vous avez une idée de ce profil, on va dire, sociologique, cette origine? Est-ce qu'il y a, par exemple, une forte proportion de jeunes gens qui sont plutôt de milieux modestes?
Je pense que de plus en plus, on remarque cette forte proportion de jeunes gens qui viennent du milieu modeste. Parce que, en général, nous prenons nos étudiants en fonction de leur performance. Avec le mérite, nous avons des étudiants qui viennent donc du milieu rural, des personnes qui ne sont pas aisées et qui font donc la médecine parce qu'ils ont eu de bonnes performances au baccalauréat.
Et certainement aussi un coup de cœur, un vrai engagement. En tout cas, on sait qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail. Comment ça se passe, cette répartition entre cours théoriques et stages pratiques pour les gens qui ne sont pas spécialistes de ce milieu médical? Ça veut dire que les premières années, on est complètement à la fac et ensuite, on va de plus en plus à l'hôpital?
Tout à fait. Et ça, je pense, c'est important. Dans les matières fondamentales, la première année et la deuxième année, les cours se font à la faculté. Mais déjà, à la deuxième année, on commence déjà à être imprégné en milieu hospitalier parce que le stage infirmier commence au deuxième semestre de la deuxième année de médecine. Et après maintenant, la troisième année jusqu'à la fin, vous êtes chaque matin à l'hôpital. Et ce sont les après-midi qu'on a donc les enseignements donc à la faculté.
Et justement, les étudiants, ils travaillent beaucoup à l'hôpital. Ils contribuent dans une très large proportion à l'activité de ces hôpitaux publics du Sénégal. L'internat, stage obligatoire en décembre. Une partie des jeunes étudiants ont fait part de leur mécontentement derrière un slogan, un hashtag, Birhôpital, qui signifie « dans l'hôpital » en Wolof, si je ne me trompe pas. En cause, les conditions de travail lors de la phase pratique de l'apprentissage, en particulier la prise en charge des équipements, un certain nombre de frais et des stages qui ne sont pas rémunérés, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres régions du monde. Comment est-ce que vous avez perçu, professeur Sam, cette mobilisation ?
Alors, je pense que ce problème, nous vivons ça depuis plusieurs années déjà, c'est la rémunération au niveau des stages. Mmh. Enfin, nous, on s'est toujours dit que quand on a la période d'apprentissage, il faut continuer à apprendre. Et plus tard, les stages seront rémunérés plus tard.
Oui, mais il y a des frais
parce
quand même.
Parce que l'État fait l'effort de ne pas demander, par exemple, beaucoup d'argent quand même pour l'inscription
les études
à la faculté.
Mmh.
Mais je pense qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une participation. D'abord, tous ces étudiants sont boursiers. Donc, il y a déjà... un accompagnement.
Mm-hmm.
Maintenant, il faut effectivement, pour les études en médecine, que, disons, les parents participent.
Ben oui, parce que ça dure longtemps.
Ça dure longtemps, et puis il faut acheter donc des ouvrages, mais aussi parfois donc aller à l'hôpital de manière régulière. Bon, l'État, nous avons fait un effort pour les transporter avec des bus qu'on a mis à leur disposition, mais aussi la possibilité d'avoir un tarif réduit dans le transport public.
Malgré tout, est-ce que, monsieur le doyen, excusez-moi, ces revendications, il y a des discussions là-dessus pour donner un petit coup de pouce à ces jeunes?
Mais tout à fait. Nous, ce que nous avons surtout donc pensé, c'est d'améliorer les conditions d'accueil. Personnellement, je ne me suis pas engouffré dans le paiement donc, des stages.
Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Voilà, vraiment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons vu des pays qui ont essayé de le faire, mais ça a été très, très compliqué. Je donne l'exemple du Burkina Faso, il y a un effort. Je sais que ça a été très, très compliqué. Et je pense aujourd'hui, ce qu'il faut surtout améliorer, ce sont les conditions d'accueil à l'hôpital, les mettre dans de bonnes conditions donc, pour travailler, mais aussi assurer une restauration pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible en milieu hospitalier.
Merci beaucoup. Merci, professeur Sam. Merci, monsieur le doyen.
RFI à Dakar, 92 FM.
Bonjour, je m'appelle Dara Hossein, j'ai 24 ans et je suis étudiante en Master 2 de médecine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis en 5e année.
Comment s'est passée votre arrivée ici ?
Pour dire vrai, je suis née à Touba, mais la majeure partie de ma famille vit à Dakar. Du coup, je n'ai jamais eu de problème à intégrer ici à Dakar, vu que pendant les grandes vacances, je l'ai passé ici. Je n'étais qu'à Touba que pendant l'année scolaire où j'ai fait toute ma cursus là-bas. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai pas eu vraiment de problème, de difficulté à intégrer la faculté. Sauf la faculté, c'était un peu difficile, mais à Dakar, moi, je connaissais déjà.
Comment vous avez choisi de venir étudier à cette faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop?
Bon, pour être honnête, ça n'a jamais été mon choix. J'ai toujours fait les comptabilités, comme vous voyez, et devenir directrice de banque. J'ai toujours aimé ça. Un jour, j'ai eu à parler avec mon professeur, M. Fall, je le salue de passage. Il est professeur de sciences physiques. Et il m'a dit, moi et avec un autre ami, il m'a dit pourquoi pas ne pas choisir la médecine. En plus, c'est un métier qui promet dans l'avenir, donc il a jugé nécessaire pour qu'on choisisse médecine.
Pourquoi ? Parce que vous étiez brillante dans les études ou parce que vous aviez une sensibilité d'aller vers les autres, d'écouter les autres comme ce que l'on attend d'un soignant ?
De sa part, peut-être c'est de la côté de brillance, parce que j'ai été forte dans les matières scientifiques. De l'autre côté aussi, je suis une personne très sensible envers l'être humain. Je suis comme ça, ça a toujours été comme ça. D'habitude, quand j'étais trop petite, ma mère me disait que quand j'ai eu à choisir la médecine, ma mère me disait que tu pourras réussir parce que tu es vraiment quelqu'un de trop sensible envers les personnes. Je suis comme ça. Je suis toujours allée de servir les gens et je le fais d'habitude sans...
Ça aurait été pas mal d'avoir une banquière qui aille aussi vers les êtres humains. Est-ce que vous regrettez finalement de ne pas être allée vers la finance ? Aujourd'hui, ce choix, vous êtes contente de l'avoir fait ? Qu'on vous ait aiguillé, parce que finalement, ce sont vos professeurs qui vous ont ouvert le chemin. Vous n'êtes pas déçue de tout cela ?
Non, non, je ne suis pas déçue, parce que la médecine, c'est un peu différent des autres métiers. C'est un métier où, quand tu avances, tu aimes le métier. C'est ça, en fait. C'est ce qui les différencie par rapport aux autres. Et quand, peut-être, en première année, c'était un peu difficile, mais maintenant, au fur et à mesure que j'avance, vraiment, j'ai un amour.
On apprend à aimer la médecine en pratiquant.
Exactement, en pratiquant, exactement, c'est ça, c'est ça.
Alors, quand vous dites à vos parents, voilà, j'ai discuté avec des professeurs, ils m'ont dit, Daro, je te vois bien médecin, comment réagit votre famille ?
Peut-être qu'ils seront heureux, parce que c'est ça leur souhait, de me voir un jour réussir. Ma mère me l'a un jour dit. Mon plus grand souhait, c'est de te voir un jour déambuler dans les grands hôpitaux du Sénégal. Et depuis ce jour, ces mots se sont restés gravés dans ma tête. toujours je marche avec pour devenir bon médecin, en fait.
Et c'était pareil pour vos autres frères et sœurs?
Non, non. En fait, je suis issue d'une famille où je dirais que la majeure partie sont des analphabètes. Pour être honnête, je suis l'unique fille de ma mère et de mon papa qui a eu à fréquenter l'école.
Et pourquoi vous?
Peut-être, j'ai commencé d'abord parce que nous, à Touba, on a un peu nos coutumes. J'ai commencé d'abord par l'étude coranique. Il y a un de mes oncles qui venait tout le temps à la maison. Il a dit à ma mère que vraiment, j'ai des compétences pour fréquenter l'école française. C'est là que mon oncle m'a inscrite et dans son école, parce que lui, il était enseignant à cette époque. Il m'a inscrite dans son école, il m'a suivi et c'est là que j'ai commencé à fréquenter l'école.
Et d'arriver comme ça dans une université avec tout le monde, la ville de Dakar, qui est comme ça foisonnante, vibrionnante, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'était quelque chose qui a contribué à, on va dire, bien suivre les cours, vous engager, ou c'était quelque chose de difficile?
Oui, je dirais que l'année la plus difficile en faculté, c'est la première année.
Pourquoi?
Parce que d'habitude, vous venez d'un lycée où vous étiez à peu près 40. Là, vous venez d'intégrer une université. En première année, on est plus de 500. On ne se connaît pas.
Ça... Et vous aviez quel âge?
J'avais 20 ans. 20 ans, normalement. 20 ans. Parce que j'ai eu mon bac en 2015. Sauf que moi, j'ai repris la première année. Je n'arrivais pas à trouver une bonne assise pour m'intégrer à la fac.
Vous vous sentiez perdu?
Oui. En première année, je me sentais vraiment perdue.
Et pourquoi vous n'avez pas abandonné? Elle est peut-être bizarre, cette question, mais finalement, vous arrivez dans un endroit où il y a tellement de gens, un prof qui est loin, avec son micro, vous vous sentez perdue, et vous dites, je m'accroche, je continue. Pourquoi?
Lors de mon arrivée, dès les premiers jours, je n'avais pas de problème. J'ai suivi les cours. C'est après les examens que j'ai compris que moi, voilà, je ne me sentais pas à l'aise avec les cours parce que je n'arrivais pas à me sortir avec l'école, avec les examens et tout ça. Je me souviens, en premier semestre, je n'avais rien validé. J'ai eu zéro crédit. Parce qu'ici, c'est le système LMD, on parle de crédit. Je me suis dit que ce n'est pas grave. Peut-être, je ne me suis pas bien travaillé. C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Sauf que, n'empêche que je travaillais quand même. Je me suis dit, je vais essayer de me rattraper lors de la deuxième section.
Le problème, c'était quoi? L'organisation?
L'organisation, la manière dont ils posaient les questions, j'arrivais pas à répondre exactement. C'était ça mon problème. Parce que d'habitude, quand tu viens, il y a nos années qui nous disaient qu'en médecine, il faudra apprendre, parcouriser les cours. C'est comme ça que je faisais. Je suis venue avec mes amis. Eux, lorsque moi j'apprenais mes leçons, eux, ils étaient en train de faire des exercices.
J'adore cette expression. J'avais jamais entendu parcouriser. C'est une expression. Elle est géniale. Je vais l'apprendre à mes enfants. Essaie de parcouriser ton cours.
Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils disent, en fait. Il y a nos aînés qui nous disent qu'en médecine, il faut parcouriser les cours. En fait, je suis un peu têtu. D'habitude, je n'écoute pas trop. Quand tu me dis quelque chose, je me dis que c'est ça qui est bien, en fait. Par contre, on était un groupe d'étudiants parce que je suis arrivée avec mes amis à qui j'ai partagé le lycée. Eux, ils savaient qu'en médecine, pour pouvoir réussir, il faudra faire beaucoup d'exercices. Je me souviens, quand mon ami m'appelait pour me dire « Dara, aujourd'hui, on va faire des QCM, par exemple, sur le module d'anatomie », je lui disais que non, c'est une perte de temps. Parce qu'on a dit en médecine, il faut parcourir, donc je vais essayer d'apprendre mes leçons.
Vous vous êtes trompée.
Voilà, je me suis trompée. C'est en fin d'année.
Il faut appliquer.
Voilà, il faut appliquer. Puisque j'ai énormément fourni de temps et je n'ai pas réussi, je me suis dit, en deuxième semestre, quand les résultats ont sorti, je n'ai rien validé. Et c'est là que j'ai craqué. J'ai vraiment pleuré à la fac.
Daro, qui est venu vous chercher pour justement tenir le coup?
Pour être honnête, c'est grâce à trois personnes. Il y a d'abord ma mère qui m'a toujours soutenue. Il y a aussi ma grand-mère et ma meilleure amie. Elle a beaucoup fait pour que je continue mes études en médecine. Parce qu'elle savait bel et bien que j'étais une travailleuse, donc peut-être c'est juste une erreur. Et ça m'a vraiment permis de trouver après une bonne assise.
Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes, on va dire peut-être parmi les professeurs que vous avez croisés dans ce cadre universitaire, qui ont été vraiment marquantes et qui le sont toujours pour vous?
Oui. En fait, à la faculté, on a la chance de côtoyer nos professeurs, même si ce n'est pas à la fac, ce sera à l'hôpital. Par exemple, je ne l'ai pas fréquenté à l'hôpital, mais je l'ai aimé lorsqu'il nous faisait les cours de l'année dernière, la cardiologie, à savoir professeur Abdul Khan. Vraiment, il m'a beaucoup marqué par sa pédagogie et son humilité. L'année dernière, quand il nous faisait les cours de cardiologie, j'ai vraiment aimé. Quand il vous transmet la connaissance, vous sentez que vraiment, il a envie de vous transmettre tout ce qu'il a dans sa tête.
C'est dans la voix, c'est dans la façon de parler, c'est dans la façon d'expliquer?
C'est la façon dont il explique les leçons, la façon dont il agit avec les étudiants, mais aussi la façon dont il nous encourage en nous disant que, plutôt, il était à notre place et aujourd'hui, il est professeur, donc il n'y a pas de secret, il faut toujours travailler pour réussir.
C'est comment l'hôpital?
Je trouve que c'est vraiment formidable parce que la médecine, c'est avant tout la pratique. Donc, quand on a la chance de fréquenter les hôpitaux, c'est vraiment une très belle chance pour nous, vraiment.
Est-ce que vous avez déjà été confronté à la mort?
Bon, je dirais que c'est quelque chose de tabou. Hein. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais en quatrième année, j'étais aux Jeux Andréa, je faisais une garde avec une amie. Et vers 6 heures du matin, il y a un de mes patients. Il est décédé entre 6h et 7h. Et c'était une personne vraiment âgée, mais ça m'a beaucoup marqué parce que vraiment la famille s'était attachée à moi parce qu'ils savaient que je faisais partie des étudiants qui géraient cette patiente. Donc quand on l'a perdue, quand je suis sortie de la salle, j'ai eu à rencontrer sa fille. Et quand il m'a regardé, il m'a dit que malheureusement, son papa est décédé. Je lui ai dit que c'est ça, mais la vie est ainsi faite. C'est comme ça. Il y aura toujours des morts. On doit vivre avec. On n'est pas sûr à 100% qu'on va guérir le patient. Nous, on a juste nos souhaits, nos engagements de guérir le patient ou la patiente. Donc maintenant, tout ce qui viendra après, c'est la décision de Dieu, parce que c'est Dieu qui décide celui qui va vivre, celui qui va mourir.
Est-ce que vous avez déjà fait votre choix d'Arosène au sujet de la spécialité vers laquelle vous souhaitez vous diriger? C'est toujours la grande question aux étudiants en médecine.
Hein. C'est vrai. Mais j'ai toujours aimé la cardiologie, moi. J'ai toujours aimé la cardiologie. Mais là, je pense que je vais revoir la spécialité parce que j'ai eu à découvrir pendant mon cursus des spécialités qui m'ont vraiment émue. Comme par exemple, j'ai eu à découvrir la maladie infectieuse que j'ai fait l'année dernière aussi. Cette année-ci, j'ai eu à découvrir la neurologie et la neurochirurgie. Donc, c'est sûr que je vais revoir ma spécialité.
Vous voulez exercer à l'hôpital ou vous voulez exercer en cabinet privé?
Personnellement, moi, j'aurais vraiment intégré la fonction publique.
C'est ce qui vous attire?
Voilà, c'est ça qui m'attire en fait, pas travailler dans le cabinet.
Et y compris après faire de la recherche?
Oui.
Vous voudriez devenir professeur de médecine?
Oui, ça me tient vraiment à cœur. J'aimerais vraiment devenir un très bon professeur en médecine, pouvoir donner des cours et tout ça.
Ça veut dire que vous êtes parti pour de très très longues études.
Ça ne pose pas de problème. Le fait que...
Ça ne pose pas de problème, y compris quand on est une jeune femme. Y a pas de... Vous disiez, votre famille, en particulier votre maman, a toujours été là pour vous accompagner. Mmh. Elle ne vous dit pas à un moment donné, Daro, c'est bien les études, mais aussi il va falloir penser à la vie de femme, à la vie, on sait très bien ce que ça veut dire avec tout ce qui va avec, fonder une famille. Vous êtes tranquille par rapport à ça?
Oui, peut-être au début de mes études à l'université, il y a certains de mes cousins qui me faisaient la cour, qui voulaient se marier avec moi. Mais moi, je leur ai dit carrément que je suis en médecine. Et puisque je suis en première année, je ne peux pas me marier là. Ça risque d'être un obstacle pour moi. Donc vraiment, je vais continuer. Après, peut-être avec le temps, je vais voir. En première année, ce n'était pas possible. Je fais partie d'une famille où quand tu t'engages sur quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ils te soutiennent jusqu'au bout. C'est comme ça.
Ils vous font confiance.
Exactement. Ils ne me demandent jamais à quand est-ce que le mariage et tout ça. Vraiment, ils savent que ce sont les études qui me tiennent à cœur. Et pour le moment, je suis dans ça.
Et vous disiez tout à l'heure, je veux aller vers la fonction publique, mais vous voulez aller où? Est-ce que vous avez envie d'exercer ici ou vous voulez aller apporter votre savoir en dehors de cette capitale Dakar?
J'aimerais vraiment travailler ici à Dakar. Mais aussi, si mon souhait se réalise aussi, un jour, j'aurais vraiment aimé aller exercer à Touba.
Pourquoi?
Parce que non seulement je suis originaire de Touba, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer dans notre ville, qui est la ville sainte de Touba. Et pour améliorer cela, moi je me dirais qu'il n'y aura que ceux qui sont natifs de Touba qui peuvent améliorer ça.
Tout à l'heure, en début d'entretien, vous avez dit « je suis têtu ». Moi, je pense que vous êtes plutôt déterminé que têtu. Pour vous, c'est quoi le trait de caractère indispensable pour aller au bout des études en médecine et puis après, essayer de devenir un bon médecin?
Voilà, la première chose, c'est de ne jamais se décourager. Parce que la médecine, non seulement c'est long, mais c'est difficile. Donc, il ne faut jamais se décourager. Il faut bannir de sa dictionnaire le mot « décourage » d'abord. Et deuxièmement, il faut avoir l'amour de la médecine. Parce qu'on ne peut pas faire la médecine sans pour autant avoir cet amour. Si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas réussir.
C'est quoi? C'est l'amour de la connaissance ou l'amour de soigner les gens? Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de la médecine?
Il faut avoir l'amour des deux. Parce qu'il faut avoir l'amour de la connaissance et l'amour de soigner les gens. C'est ça qui peut t'aider, en fait. Parce que si tu as l'amour de la connaissance et sans pour autant avoir l'amour des soignants, ça ne peut pas passer. L'un ne peut aller sans l'autre. Moi, je dirais qu'il faut combiner les deux pour pouvoir y arriver.
La détermination.
Exactement.
Merci beaucoup, Darosène, de nous avoir parlé de vous. Très, très bonne continuation. Aïda Sam, tout de suite avec ce titre Baadolo, à suivre une autre rencontre dans Priorité Santé sur RFI, toujours ici à Dakar. Badolo, badolo, le don rek bade. Defal nan lo lune.
Priorité Santé sur RFI, portrait d'étudiants, d'étudiantes aujourd'hui. Elles vous soigneront demain à Dakar ou ailleurs et nous leur donnons la parole.
Je m'appelle Christine Sorna Tchandou, j'ai 26 ans et je suis en année de thèse, en 8e année de médecine.
Alors bonjour Christine, cette 8e année, est-ce que vous vous sentez soulagée d'atteindre bientôt le but d'avoir terminé ces études? Ou ces études, finalement, ça a toujours été pour vous un grand plaisir?
Je pense qu'il y a eu un mélange des deux. C'était vraiment des années très dures et parallèlement aussi des années de plaisir vu qu'on fait ce qu'on aime. Donc je dirais qu'il y a des deux, quoi.
Quand vous dites c'est très dur, qu'est-ce qui est difficile?
Les études surtout, enfin tout ce qui est théorique. La pratique, ça va, vu qu'on aime. Donc il y a déjà le contact humain, il y a le contact social, ce qui fait qu'on se sent vraiment utile.
Un parcours déjà bien avancé. C'est quoi la spécialité que vous avez choisie?
Pour l'instant, hépato-gastro et peut-être faire un master de nutrition parallèlement. C'est plus le volet maladie non transmissible, c'est-à-dire tout ce qui est diabète et hypertension artérielle. Enfin, j'étais volontaire pendant 5 ans, enfin, dans une association qui lutte contre ça de par la promotion du sport. Et j'ai la ferme conviction que, vu notre niveau social, parce que c'est quand même un luxe de se soigner au Sénégal si on n'a pas de prise en charge. Et je pense que le point où on peut vraiment agir, ce serait au niveau de l'hygiène de vie.
Travailler donc, la prévention.
Exactement, et donc la nutrition.
Et quand on fait un retour en arrière, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire en faculté de médecine? Et deuxième question, à vous inscrire ici à Dakar? Parce que vous aviez le choix d'aller étudier ailleurs.
Oui.
Et vous avez choisi Dakar?
Oui.
Pourquoi?
De base, je voulais faire ingénieur mécanique. Et j'ai changé d'avis 4-6 mois avant la rentrée. Parce que justement, j'avais rencontré le gynéco de ma maman. Parce que moi, j'avais une perception vraiment très erronée de la médecine. Je pensais que c'était le généraliste, quoi. Le gars qui vient, il traite les grippes, etc.
Ce qui vous intéresse, c'est ce côté rechercher des causes,
Exactement. Et surtout le côté manuel, en fait, le côté pratique. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime vraiment en chirurgie. Le patient, il vient amoché. Et
vous
faites l'intervention et après ils sont, enfin c'est un peu magique quoi, entre guillemets.
La mécanicienne du soin. Alors, je disais tout à l'heure, vous avez eu le choix de venir étudier à Dakar parce que vous pouviez aussi étudier en Europe. Qu'est-ce qui a pesé justement pour venir ici, pour vous installer ici et pour faire votre vie de médecin ici?
Enfin, je ne me vois pas pratiquer ailleurs à part le Sénégal. Hein.
Et comment votre famille réagit quand vous leur dites je vais faire médecine parce que ça veut dire de longues années d'études? Comment ils réagissent?
Je sais que mon père, enfin, il m'a toujours soutenue, donc pour lui, c'était pas un souci. Par contre, lui, c'était plus l'université. Enfin, l'UCAD, quoi.
Mmh. Ça, il était pas convaincu par cette université.
Exactement.
Pourquoi?
Parce que, je suis pas de Dakar, je suis de Sali, et mon père aussi n'a pas été à l'université ici. Enfin, il n'a pas été à l'université. Du coup, il avait une perception très médiatique de l'université, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps des grèves, etc., alors que ce n'était pas forcément le cas. Surtout, enfin, notre faculté, elle est assez sérieuse, enfin, on a un bon programme et on respecte vraiment notre calendrier.
Et quand, justement, votre père n'était pas forcément convaincu, qu'est-ce qui a pu le pousser à changer d'opinion et finalement appuyer votre choix?
On a beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, enfin, j'ai essayé de le convaincre. Et j'avais aussi un oncle qui était médecin, qui lui a parlé, qui a réussi à le convaincre aussi, je pense.
Et justement, après les premières réticences, aujourd'hui, vos parents y voient le parcours, hein, puisque ça fait des années que vous êtes finalement inscrite à cette université, qui a démenti un petit peu les pronostics et les craintes de votre papa. Ils en pensent quoi aujourd'hui de ces études et de ce choix?
Ils sont très fiers de moi, je pense. Et je pense aussi que parallèlement, ils ont une autre vision de l'université parce qu'ils ont vu que justement, c'était assez sérieux et que c'était assez organisé. Et je pense que si c'était à refaire, que ce soit pour ma sœur, enfin pour mes sœurs, ils les auraient laissé faire leurs études ici.
Alors, la théorie, les stages, vous dites, et puis ça dure longtemps. Hein. Est-ce que finalement, tout ça laisse de la place pour la vie d'une jeune femme d'une vingtaine d'années?
Ça se force. Jusqu'en 4e année, je n'avais pas vraiment une vie sociale. Enfin, c'était je bossais, je mangeais, je dormais, je bossais encore. Enfin, c'était un cycle, quoi. C'était une routine. Après, c'est en 4e année quand j'ai connu, enfin, quand je me suis familiarisée avec des collègues que j'avais eus. C'est là vraiment où j'ai réussi à m'organiser parce que déjà, comme je dis, l'intérêt du groupe de travail, c'est que tu as des failles que tu arrives à combler avec les autres et inversement. Donc le fait de...
Mais là, vous me parlez de la vie d'une jeune étudiante, vous ne me parlez pas de la vie d'une jeune femme. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller écouter de la musique? Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller suivre des événements de sport? Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller danser? Ou c'est pas pour les étudiants en médecine?
Je suis pas d'accord. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup de clichés. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'arrivais à juger les deux. Comme je vous ai dit, à partir de la quatrième année, j'essayais de m'organiser de telle sorte que j'arrivais à bosser, j'arrivais à aller en soirée, j'arrivais à sortir avec mes amis, parce que je pense qu'il faut un équilibre. Après, c'est personnel. Moi, je sais qu'il m'a toujours fallu cet équilibre, sauf qu'avant, peut-être, c'était axé vers le sport et que là, c'était plus axé vers la découverte d'autres choses, quoi.
Alors, les stages, parlons-en. Votre vision de l'hôpital aujourd'hui, s'il fallait décrire à quelqu'un qui ne connaît pas les hôpitaux ici à Dakar, tu me conseilles d'aller à l'hôpital, est-ce que je serais bien soignée? Vous lui diriez quoi?
Oui, enfin, je pense qu'il y a le personnel, c'est-à-dire nos profs, ils sont excellents, nos assistants, enfin, tout ce qui est ressources humaines, je trouve quand même que... Enfin, je juge qu'on est excellent. Maintenant, le point faible, ce serait plus le plateau médical, l'accueil, l'organisation, enfin, plus des trucs comme ça que la qualité même du soin, parce que je pense qu'on a vraiment le savoir. Maintenant, ce qui reste, c'est le matériel.
Au début de cet entretien, vous nous avez dit « j'ai envie de réparer », vous aimez un petit peu la dimension technique de la médecine. Est-ce que pour autant, pour vous, la communication, l'explication, le temps pris avec le patient, c'est quelque chose d'important?
C'est très important. Justement, enfin, j'aspire à faire de la psychothérapie familiale et systémique parce que je pense que justement, enfin, personnellement, je pense que on ne peut pas forcément soigner quelqu'un qu'avec les médicaments. Vous comprenez? Je pense qu'au-delà du volet organique, il faudrait que la personne soit réceptive, qu'elle soit consciente déjà de ce qu'elle a pour qu'elle puisse justement vous aider à la guérir.
Est-ce que tous les étudiants sont préoccupés par cette dimension financière? De dire qu'aujourd'hui au Sénégal, même si on essaye de mettre en place un système de remboursement, c'est pas encore très efficace. Mmh. Et donc finalement, la santé c'est un luxe. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe les étudiants? Est-ce qu'il y a une sorte de conscience sociale de dire qu'il y a une forme d'injustice?
Bien sûr, parce que déjà à la fac, enfin, on est issu de niveaux sociaux différents, et même dans la pratique, on est tout le temps confronté à cela. On consulte, mais parallèlement, on sait que la personne, elle n'a pas forcément de moyens. C'est pour ça que nos profs, ils insistent sur la sémiologie, c'est-à-dire le fait de pouvoir poser des diagnostics sans forcément prescrire de la paraclinique. Donc, je pense qu'on a été formés à ça. Et que, justement, je pense qu'ils sont très conscients, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la fac, ils font beaucoup de campagnes médicales. C'est-à-dire, ils vont en sous-région, dans les régions du Sénégal, où ils font des consultations gratuites et ils font des dons de médicaments. Sinon, même à l'intérieur des hôpitaux, les étudiants, ils cotisent assez souvent pour acheter des ordonnances aux gens qui n'ont pas les moyens ou payer des examens paracliniques ou même offrir des médicaments. Enfin, nous, notre promo, elle fait ça depuis qu'on est entré à la fac, depuis 2013-2014.
Des actions solidaires?
Oui.
En milieu rural?
Et même ici à Dakar.
D'accord. Dans les milieux populaires.
Exactement. C'était fait de telle sorte qu'on prenait différents étudiants qui se trouvaient dans les différents CHU et on faisait une collecte. C'est-à-dire, on avait une caisse où les étudiants donnaient ce qu'ils avaient, 1000 francs, 5000, et les profs aussi. Maintenant, à la fin de l'année, avant de quitter nos sites de stage, on faisait une sélection de gens vraiment qui n'avaient pas du tout les moyens et on achetait les médicaments dont ils avaient besoin et on offrait ça avant même de quitter les sites de stage.
Christine, vous, par rapport à beaucoup d'élèves en médecine, vous êtes issue d'un milieu assez privilégié.
Oui.
Est-ce que le fait de rencontrer justement des jeunes étudiants de tout milieu, ça a changé votre vision des choses, votre vision de la vie?
Clairement.
Qu'est-ce que ça a changé?
Déjà, je pense que quand on habite au Sénégal et qu'on est dans un milieu citadin, enfin, on peut voir la pauvreté, mais on ne la côtoie pas forcément. Alors qu'à l'université, il y a déjà cette fraternité qu'on acquiert au cours des années, et ce qui fait qu'on est plus intime en fait, avec nos collègues. Et on se rend compte de plein de choses qu'on ne savait pas, justement. C'est-à-dire, on n'arrivait pas à imaginer ce niveau de pauvreté, parce que quoi que l'on puisse dire, la médecine, je trouve que c'est des études quand même assez chères pour le niveau de vie d'un Sénégalais basique, parce que tu vas acheter tes cours, tu vas payer ton transport pour aller au stage. Après, il y a le matériel parallèlement. Si tu viens de la sous-région, vu que... Enfin, si tu n'habites pas à Dakar, tu vas payer le loyer. Mmh. La codification, elle n'est pas systématique, c'est-à-dire on n'a pas forcément de chambre à l'université. Même si tu as une chambre, on est entre 8 et 13 personnes. Donc, c'est pas pour un étudiant en médecine.
C'est pas des conditions idéales pour travailler.
Exactement. Et ce qui fait que, en fait, derrière, tes parents, tu es à la charge de tes parents de ta première à ta huitième année. Si j'avais pas fait médecine, j'allais pas être aussi consciente, en fait, des réalités économiques ici au Sénégal.
Tout à l'heure, vous disiez réparer les gens, mais ce côté social, c'est essentiel?
C'est primordial au Sénégal, c'est primordial.
Et pour l'exercice, quand vous aurez terminé, Christine, vous voulez travailler où et dans quelles conditions? À l'hôpital aussi?
J'aimerais, avec des amis, on a même organisé, on a une association qui s'appelle Saint-Chelal, qui fait de la médecine de proximité et on souhaite faire des consultations ultérieurement. Donc on aimerait, dans le long terme, avoir une structure privée.
Une maison de santé.
Exactement, où on proposerait des soins de qualité et à des prix moindres, quoi. Donc, essayer d'allier un peu le social et le capital, quoi.
Et où?
Moi, ce serait le Sine Saloum. C'est la zone Fatick-Kaolack, où il y a beaucoup de bras de mer. Enfin, c'est assez joli, c'est assez sain.
C'est au nord de la Gambie, c'est où?
Juste au-dessus de la Gambie. Mm-hmm. C'est un lieu qui m'apaise personnellement et je sais que j'aime bien aussi la chaleur sociale qu'il y a là-bas. Et enfin, niveau géographique, je pense que c'est une position aussi assez stratégique par rapport aux gens, par exemple, qui seront de Mbour, les gens qui seront de Matam. Enfin, c'est assez centré, quoi, je trouve.
Vous nous emmènerez là-bas?
Bien sûr.
Merci beaucoup, hein, Christine Sortnatiandoum. Le meilleur pour la suite pour vous. On se laisse maintenant avec Momo Dieng avant de retrouver notre troisième médecin de demain, Momo Dieng, avec Alalou Kou Sagan. Vous savez ce que ça veut dire?
En fait, ça veut dire qu'il faut prendre soin de ce qu'on a. On se rend compte de la valeur de la chose que lorsqu'on perd celle-ci.
Il faut profiter des vivants.
Exactement.
Ben, on va garder ça pour nous. Merci beaucoup, Christine.
Merci à vous.
Je m'appelle Maïmouna Sow, je suis étudiante en 7e année de médecine et j'ai 26 ans.
Et vous êtes en train d'écrire votre doctorat, Maïmouna?
Oui, j'ai pris un sujet en cardiologie, mais je suis sur la première phase, la documentation.
Vous êtes en phase de documentation donc de ce doctorat. Ça veut dire que parmi les trois étudiantes à qui on donne la parole aujourd'hui dans Priorité Santé sur RFI, on peut dire que vous êtes la plus proche du but. Ça veut dire que vous comptez exercer dans combien de temps?
Voilà, Inch'Allah, en 2022.
2022.
Ouais.
À l'hôpital?
Oui, juste, c'est pour m'inscrire au cycle DDS, qu'on appelle docteur en spécialisation en cardiologie.
En cardiologie dans un hôpital. Comment est-ce que vous imaginez ce moment quand vous serez non plus étudiante, mais médecin? Vous serez dans votre bureau, on fera entrer un patient et pour la première fois, vous entendrez « Bonjour docteur ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie?
Oui, en fait, c'est quelque chose qui nous fera ressentir qu'on a fait un grand pas. On se sent plus responsable.
Et depuis quand vous voulez être médecin?
Ça a été toujours ma vocation.
Toujours, ça veut dire l'enfance, quel âge?
J'ai grandi avec. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps malade. On m'amenait dans les hôpitaux. J'ai pratiquement sillonné tous les postes de santé dans notre village. Donc, j'étais tout le temps en contact avec les agents de santé. Je les considérais comme des idoles. Je me disais comment... je voulais percer les secrets de la médecine après, voilà.
Avoir ce pouvoir.
Avoir ce pouvoir, ouais.
Et ça veut dire que chez vous, par exemple, vous jouiez au médecin quand vous étiez petite?
Oui, quand j'étais petite, ouais. Je me déguisais souvent en médecin, ouais. Je partais au marché avec ma tante. J'achetais une grande chemise blanche comme ça, que je mettais tout le temps. Et je disais aux enfants, venez, je vais vous donner une portion comme ça. Je vais vous soigner. Ça a toujours été ma vocation, je pense. Ça a toujours été une passion.
Une passion, vous ouais. Déguisiez en médecin. Il y a les moments heureux, ça veut dire vous allez vous faire soigner. Et il y a ces médecins, ces infirmières, ces aides-soignants qui vous guérissent. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu aussi des moments plus difficiles où vous avez vu des personnes qu'on ne pouvait pas soigner, qu'on ne pouvait pas guérir et vous vous êtes dit, moi, je voudrais aider à ce moment-là.
Oui, je pense que c'est le décès de ma maman qui a été un déclic. Je pense que ça, c'est ce qui m'a plus motivée à faire la médecine. Je l'ai vu souffrir et voilà, j'ai souffert en retour. Donc, je ne souhaitais pas vraiment voir des femmes souffrir comme ça après. Donc,
vous saviez ce que c'était, sa maladie?
Oui, je ne savais pas au début, mais après sa mort, j'ai fait une petite enquête comme ça. Je pense que la pharmacie, elle était au courant. J'entendais tout le temps, quand on partait à la pharmacie acheter des médicaments, je l'accompagnais. J'entendais la pharmacienne demander, est-ce que tu en as parlé avec la famille? Elle disait, non, je préfère garder le secret. Elle ne voulait pas en parler.
Et vous trouvez ça comment aujourd'hui, qu'elle ne vous en ait pas parlé de la maladie?
Je pense que...
Elle voulait vous protéger.
Je pense qu'elle voulait me protéger. Elle ne voulait pas me faire souffrir. J'étais sa fille unique. Donc, ouais, j'ai compris. C'est en faisant des recherches sur sa maladie après que j'ai vraiment voulu savoir ce que cache ce métier. En fait.
Il y a une petite fille qui se déguise, puis qui enquête. Et puis, il y a une petite fille qui aussi perd sa maman. Donc, vous avez été recueillie par quelqu'un d'autre de votre famille?
Oui, j'étais avec mon grand-père maternel. J'étais avec lui avant le décès de ma maman parce que j'ai grandi avec des parents divorcés. Mm-hmm. Donc, ma maman était dans la famille, dans la maison de mon grand-père. Mm-hmm. Je suis née dans une famille très conservatrice. On fait d'abord l'école coranique jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans. Après, on a le droit d'intégrer l'école française. Donc, moi, j'étais l'exception. Donc, j'ai intégré l'école française à l'âge de 5 ans et demi. J'avais même pas 6 ans. Je descendais de l'école coranique à midi. Au lieu de rentrer dans la maison, je m'essayais devant la porte à guetter le retour des élèves. Je m'étais tout le temps à pleurer. J'avais l'âge de 5 ans, je m'étais tout le temps à pleurer. Je disais, maman, je veux un sac à dos. Ouais. Je veux aller à l'école. Je pleurais tout le temps. Je pense que j'avais fait une grève de faim. Je ne voulais pas manger. Voilà. Elle n'en pouvait plus.
Une militante de l'école.
C'est ça. Elle n'en pouvait plus. Là, elle en a parlé avec mon grand-père. Il lui a donné le feu vert comme ça.
Alors, vous allez à l'école française. Et ensuite, comment vous décidez de devenir étudiante en médecine? Comment ça se passe?
Ça a toujours été ma vocation, faire la médecine.
Et vous quittez le village?
Oui, j'étais au village, j'ai quitté le village, je suis venue à Dakar après le baccalauréat. Ça a été un peu difficile de m'intégrer à la première année. J'avais eu du mal à être dans le bain.
Le village dont vous venez, il est à combien de kilomètres de Dakar?
C'est à 80 kilomètres de Dakar.
Donc c'est pas très loin, mais c'est un autre monde.
Non, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Il y a beaucoup de monde comme ça. Et là-bas, il y a la solidarité. Même si on ne te connaît pas, voilà.
Et là, c'était la solitude?
Oui, j'étais seule.
La solitude dans la foule?
Dans la foule. Heureusement, il est venu un système de parrainage, mais c'était trop tard. Donc,
vous aviez besoin de conseils?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a aidé?
Ce système de parrainage, il y avait un parrain, il était en deuxième année. Au second semestre, on s'est rapprochés, il m'a parlé un peu du mode d'évaluation et tout, voilà.
Et là, vous avez compris, vous avez appris,
compris,
parce que
voilà.
Vous étiez une très bonne élève, j'imagine.
Oui, oui, oui. C'est juste ce problème d'intégration qui m'a un peu fait échouer, donc, mais... Je me suis vue très saisie et voilà, j'ai tout validé avec 60 sur 60, voilà, après.
Vous êtes brillante?
On me le dit souvent, ouais.
On vous le dit, parce que vous êtes modeste aussi.
Oui, on me le dit, ouais.
On vous le dit. Alors, les stages, les cours, qu'est-ce que vous préférez, l'hôpital ou l'amphithéâtre?
Je pense plutôt l'amphithéâtre avant la quatrième année et après l'hôpital.
Qu'est-ce que vous aimez dans le travail, justement, avec les patients et avec le reste de l'équipe?
Oui, ce que j'aime plus, c'est, je pense que c'est la recherche diagnostique. C'est-à-dire, je pense que c'est cette démarche qui me plaît plus à l'hôpital.
Mais c'était la même démarche que vous aviez quand vous étiez enfant et que vous avez enquêté sur ce qui se passait pour votre maman?
Oui, c'était un peu plus confus parce que je ne savais pas qu'il y a d'abord les signes, puis les diagnostics. Je ne savais pas. Mm-hmm. J'étais un enfant de 8 ans, en fait. J'avais 8 ans. Tu sais, au village, l'Internet n'est pas aussi avancé que
ça.
Voilà. Donc, je me payais 200 francs d'unité pour faire des recherches dans un centre d'informatique. Il y avait des Wi-Fi et tout là-bas. Parfois, je me privais même du petit déjeuner parce que c'était les 200 francs que je me payais mon pain
pour
quotidien.
Votre enquête.
Voilà.
Alors, l'organisation, les stages, les cours. Et dans votre cas, il y a autre chose dans votre vie puisque depuis 2 ans, vous avez une autre responsabilité, Maïmouna. Vous êtes mariée, vous êtes maman. Alors, on va dire, mais... Comment fait-elle? Parce que à 26 ans, vous êtes proche de la fin des études, vous êtes allée vite, vous n'avez pas pris de retard, et en même temps, vous avez fondé une famille. Comment est-ce que vous avez fait?
Oui, je pense que après le décès de mon grand-père, je me suis retrouvée seule, voilà. Et à ma quatrième année, j'ai rencontré une personne spéciale, c'est mon mari. Il m'a vraiment soutenue et j'ai connu le sens de la famille avec lui. Donc, J'ai pas hésité à m'engager, donc.
Il vous a sorti de la solitude.
Ouais, il m'a sorti de la solitude. Il a aussi réussi à effacer certaines idées négatives qui étaient dans ma tête. C'est que être enfant et perdre à la fois sa maman, puis son grand-père qui était à la fois sa maman et son père. Et j'ai pas connu mon père. Il a essayé de jouer un petit peu ce rôle. Il a tout regroupé, donc. Il m'a vraiment donné une idée de ce que c'est que la famille, donc. J'ai pas hésité à m'engager là-dessus et j'ai eu mon enfant après, donc.
Ça vous a sauvé?
Oui, surtout avec l'avènement de mon fils, ça m'a beaucoup sauvé, donc voilà. Je ne sentais plus cette solitude-là et en même temps, je me sentais utile.
Il y a certaines femmes pour qui, certaines étudiantes, on va dire, la maternité pourrait représenter un frein dans leur évolution. Vous, ça a été exactement l'inverse.
Oui, je pense que c'était un choix, parce que j'avais ce manque d'affection, j'étais seule. Je n'avais que les études. Moi, mon calendrier, c'est de quitter la maison, venir faire les études, faire stage et retourner à la maison. Retourner là-bas vers 20h comme ça. Je prends mon dîner. Après, voilà, je bosse. Je bosse jusqu'à 1h du matin.
Tous les jours, la routine.
Tous les jours, je faisais la même chose, c'était la routine. Et à un moment donné, je me suis sentie un peu vide, quoi.
Comment on arrive à gérer la grossesse, la naissance, les examens? Et d'ailleurs, cette grossesse, vous étiez en plein cours. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pris du retard? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, je n'ai pas pris du retard, mais franchement, j'ai beaucoup galéré avec. Donc, j'étais en fin de cinquième année. Vous savez, la cinquième année, c'est l'année la plus difficile en médecine. Je ne mangeais pas. Je ne prenais que du café et du coca.
C'est pas très bon
pour
le bébé,
tenir,
ça.
C'est ouais. Pas bon pour le bébé, mais je ne pouvais plus tenir. Voilà. Ouais. À un moment donné, j'avais peur. J'avais peur.
Mais on va rassurer les auditeurs, le bébé, il va très bien.
Hein. Il va très bien, il a 2 ans, mais il m'attendait avec son papa. Il va très bien quand même. Je pense que c'était la folie que j'ai faite. J'ai accouché au milieu des examens. Donc, j'ai commencé un mercredi. J'ai fait le vendredi. C'était, je pense, médecine légale. J'étais tellement fatiguée que je ne voulais pas rentrer chez moi. Je me suis dit que si je rentre, voilà, j'allais dormir. Donc, je ne vais pas réviser. Donc, je suis restée à la fac. J'ai révisé jusqu'à 20h. Je suis rentrée chez moi. C'est là-bas que j'ai perdu les os. Voilà. On m'a amenée à l'hôpital. J'ai accouché le samedi. Et je suis retournée à la fac faire examen le lundi. J'ai laissé le bébé à l'hôpital pour faire examen à la fac. J'ai fait 8h-10h. Je suis retournée à l'hôpital. Le médecin de garde m'attendait pour faire la visite. Donc, il m'a dit, mais où est l'enfant? J'ai déposé ça à la crèche avec son papa. Ils sont là-bas. Donc.
Ils ne vous ont pas pris un petit peu pour quelqu'un de bizarre?
Si.
Et vous aviez pas mal? Parce que ça peut, les suites d'un accouchement, surtout pour un premier bébé, ça peut être un peu compliqué.
C'était un peu compliqué. Avec l'épuisure, j'avais du mal à m'asseoir. Donc, je me pensais un peu pour pouvoir faire l'examen. Donc.
Maïmouna, vous êtes une étudiante pas comme les autres. Hein. Vous n'avez jamais eu de doute? Vous n'avez jamais eu envie d'abandonner? Parce que quand on vous entend, vous avez un parcours de vie qui est un petit peu extraordinaire, on va dire. Vous êtes une jeune fille, quand on vous croise dans la rue, je suis sûre que les gens n'imaginent jamais tout ce qui se cache derrière cette silhouette.
Oui, ça c'est vrai, mais je n'ai jamais eu ce doute-là. Abandonner, ça n'a jamais fait partie de mes
possibilités.
Je n'ai jamais pensé à ça, voilà. Jamais. Donc ça a toujours été là et j'ai voulu coûte que coûte faire la médecine. Voilà.
Si vous perdez un patient... Mm-hmm. Comment vous faites pour surmonter ça? Parce qu'il y a encore dans votre vécu des choses douloureuses, hein, par rapport au deuil, par rapport à avoir perdu votre maman, votre grand-père. Vous arrivez à mettre de la distance pour ne pas prendre tout comme des coups à chaque fois, si jamais il y a un patient qui meurt, surtout en cardiologie, on perd souvent des patients.
Si. En tout cas, ça a été un peu difficile avec la deuxième année jusqu'à la troisième année. Mais comme on dit, le temps guérit les blessures. On fait avec à l'hôpital, mais c'est toujours difficile de perdre... Un patient, c'est toujours difficile. C'est comme si tu avais failli à ta mission, donc.
On en parle avec les professeurs de ça?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les profs?
Ils nous disent que c'est triste, mais c'est la réalité, c'est la médecine, donc, voilà.
Est-ce que vous vous dites, Maïmouna, si ma mère avait eu la chance d'avoir un bon médecin, d'avoir les moyens, elle aurait peut-être été soignée autrement?
Je pense que c'était pas un problème de moyens. Quand elle a entendu qu'elle avait, je pense, le cancer, elle voulait plus avancer, elle voulait plus en savoir plus. Donc, on lui avait mis en rapport avec un gynécologue. C'est la pharmacienne qui m'a dit ça après, d'aller à Dakar, mais elle voulait pas. Je sais pas pourquoi, mais elle voulait pas.
Peut-être qu'on n'a pas pris assez de temps pour lui expliquer.
Oui, je pense que on lui avait dit que déjà c'était avancé, donc elle voulait pas perdre du temps. Donc voilà. Et aussi, elle voulait pas me perturber parce qu'elle pouvait pas me laisser au village et venir à Dakar. J'étais sa fille unique.
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Maïmouna, que vous voulez réparer tout ça?
Oui. toute femme que je rencontre, je vois en elle ma maman. Donc, je ne veux pas voir les femmes souffrir. Quand j'entends à l'hôpital qu'on me dit que celle-là, elle a un cancer, automatiquement, elle me fait penser à ma maman. Et j'interpelle automatiquement le médecin soignant pour lui dire qu'elle est en quel stade. Ça, c'est assez devenu un tic, en fait. Directement, je demande le stade parce que je veux qu'elle ait au moins une chance pour survivre. C'est devenu carrément une obsession, je pense.
Vous, vous touchez au but, hein, dans vos études, c'est aller vite. Mm-hmm. Votre installation, partir exercer, se fixer avec votre petite famille, vous voyez ça où? Vous voyez ça comment?
Je veux aller dans la périphérie parce que j'ai vu les problèmes qu'on rencontre là-bas. Par exemple, on n'a que parfois des infirmiers là-bas. Ils tardent à faire, je ne dirais pas un diagnostic, mais ils tardent à faire le transfert. Et quand la patiente vient à Dakar, c'est carrément...
Trop tard.
Trop tard, voilà. Mm-hmm. On ne peut plus faire grand-chose. Donc, c'est vraiment désolant. Je veux que les médecins aillent aux périphéries.
Donc, vous ne voulez pas travailler dans un grand hôpital, vous voulez faire de la médecine de terrain auprès des populations?
Moi, c'est ça. Ma vocation, c'est d'aider les populations les plus lointaines, en fait. Voilà.
Quand on est brillant comme vous, parce que j'ai compris que vous étiez une très, très bonne élève... Vous pourriez devenir chef de service, vous pourriez devenir professeur dans Afan ou Dantec, je ne sais pas, un grand hôpital renommé de la capitale. Et vous, vous avez choisi de vous intéresser aux gens.
Oui, moi je pense que ça n'a pas été la mission pour moi. Ma mission, c'est vraiment d'aider les populations les plus... ceux qui n'ont pas accès à l'hôpital, vraiment, de leur donner un traitement correct ou bien un diagnostic à temps. Parce que j'ai grandi avec et donc... ça a toujours été ma motivation d'aider ces populations-là qui n'ont pas, même s'ils ne viennent pas à l'hôpital, au moins d'avoir un traitement correct, un diagnostic correct.
Vous souhaitez être Maïmouna, médecin du peuple?
J'aime. C'est ma vocation. Je préfère mieux être au village.
À l'écoute.
À l'écoute et voir les patients à temps. Même si ça nécessite après une référence, au moins de leur donner une chance, de ne pas perdre du temps. Voilà.
En tout cas, avec vous, on n'a pas perdu de temps. Merci beaucoup, hein, Maïmouna. Et merci beaucoup à toute l'équipe qui fabrique cette émission à Dakar, à Ophélie Lassène et Richard Rifono, Didier Bleu à Paris. Demain, nous allons parler des jeunes et de la contraception. Comment la nouvelle génération s'empare de cette question de la santé sexuelle et reproductive. Prendre soin de son corps, mais aussi penser à son avenir. On vous donnera la parole, hein, et rendez-vous toujours à Dakar, dès 9h du temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunoa Assurance IARD-RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunoa Assurance, notre métier, l'assurance.
Une semaine d'actualité.